Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Coup Franc de la semaine du 1er avril. Sans poissons, on vous l'épargne, les poissons, il y en a de moins en moins, et tout ça parce que, toute proportion gardée, ils sont tout aussi nombreux dans les filets des pêcheurs industriels que les ballons dans les filets des vannes bouches à Kansas City samedi dernier, et ça, ce sera évidemment le sujet principal de la grosse demi-heure qui va suivre. Mathias Van Alst au micro, à mes côtés, Eric Chenois, qui est à la barre de Vio Park, qui a la gentillesse de nous héberger. Salut Eric.
Salut.
Et Quentin Parisis, matelot sous le pavillon de Métromédia, mais capitaine du navire Québec Soccer, dont l'édition d'avril est sur le point d'amarrer. Salut Quentin.
Bonjour, bonjour à tous, quel plaisir.
Je parlais du Québec Soccer d'avril, la sortie est prévue pour quand? Tu as une idée à peu près?
Absolument, le 2 avril. Il est dans les starting blocks et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vous invite en tout cas à aller le télécharger sur quebecsoccer.ca parce que il y a eu énormément de choses dans ce magazine. Notamment une entrevue avec le président de l'Impact de Montréal, Kevin Gilmore, qui vaut le détour. Également un rendez-vous entre Claudine Douville et Rémi Vercoutre, l'entraîneur des gardiens, dans lequel on apprend énormément de choses.
Très intéressant, j'ai hâte de lire tout ça. Et donc au moment où vous nous écoutez, chers auditeurs, le Québec Soccer du mois d'avril est certainement déjà disponible, donc oui, précipitez-vous dessus. Vous pouvez le trouver maintenant en PDF sur le site internet de Québec Soccer, mais vous pouvez aussi le trouver notamment dans nos nombreux centres intérieurs en version papier. Cette émission Coup Franc est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions de Québec Soccer, comme vous l'avez deviné, Vioparc et ImpactSoccer.com. Et si vous nous suivez sur Twitter, vous pouvez discuter avec nous avec le mot-clé Coup Franc en un seul mot pour nous retrouver plus facilement. Sur Twitter aussi, chaque lundi, on a un jeu habituel et cette semaine, ben, on a laissé place à votre imagination avec une question bien générale en vous demandant un mot qui existe pour résumer le match de l'Impact à Kansas City. Eric, quel est ton mot?
Gênant. C'était gênant. Oui, c'est drôle, hein. Mais ça ne l'est pas vraiment, en fait. Je sais pas. Il me semble que, sachant que le match était diffusé en France pour la première fois depuis belle lurette, j'ai trouvé ça un peu dommage de complètement se rater comme ça. Ça a donné une très 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 mauvaise image de l'équipe et du club en France. Et bon, sachant que Rémi Garde était probablement un peu sous l'œil des observateurs là-bas, ben ça a vraiment pas donné une belle carte de visite.
Quentin, toi?
Moi, ça serait faute, puisque c'est une faute professionnelle, ce qui s'est passé. Faute professionnelle des joueurs qui ont été cataclysmiques. Faute professionnelle d'Areno Vilo, on va en parler. Et faute professionnelle du staff technique et en première ligne de la garde, qui a lui aussi tout fait de travers lors de cet après-midi à Kansas City.
Ah, le mien, il est pas loin, hein. C'est erreur. C'est plus ou moins la même chose, plus dans les détails, on parlera des buts tout à l'heure, mais il y a des erreurs sur la majorité des buts, des erreurs individuelles, des erreurs collectives, que ce soit avec ou sans le ballon, et les erreurs pourraient suivre, hein, si ça n'a pas été corrigé rapidement. Une erreur que le club pourrait ne pas commettre, ce serait de oublier les supporters, parce qu'il y a des gens qui ont payé, qui ont fait le voyage à Montréal pour aller voir ce match-là. Donc peut-être que eux, ils ont droit à un petit quelque chose quand même pour se faire pardonner. Je veux bien qu'ils ont vécu un moment historique, mais je pense pas que ça va les satisfaire et je pense que ce serait une marque de respect. Alors parmi les autres mots qu'il y a eu, il y a eu énormément de réponses sur Twitter. Ça a été assez riche. On notera déconfiture d'Irène Lavertu, naufrage d'Alain Lemay-Maguire, Waterloo de Matthew K. Williamson, atomisation de Clément Vallée, Bérésina d'Amin Sabri, humiliation d'Amara, profondeur de Karim Rezali et de beaucoup d'autres mondes. C'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises, tout comme passeport. Et oui, je pense que on va commencer directement par régler le cas d'Arino Vilo, qui, comme vous le savez probablement, a perdu son passeport et n'a pas pu effectuer le voyage avec l'équipe. Alors je vais me lancer en premier, parce qu'il y a du bien, il y a du moins bien. Je pense que Quentin, tu vas parler aussi de la faute professionnelle tout à l'heure, et effectivement c'est une faute professionnelle. Après, Arino Vilo, il n'était pas sur le terrain. Donc les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, ils ont des contrats MLS. C'est des joueurs qui sont censés avoir le niveau pour jouer en MLS. Donc moi je veux bien qu'on blâme Arino Vilo pour sa faute professionnelle, tout à fait. Que l'Impact le sanctionne en vertu des règlements internes, que je ne connais pas, c'est tout à fait normal, et par rapport à la taille de sa faute, pour moi, l'Impact doit l'estimer, le staff technique doit l'estimer, me dire que c'est la faute d'Arino Vilo si l'Impact s'est pris une ramassette 7-1, non, quoi, c'est pas lui qui a joué. Donc, le reste, on en parlera plus tard. Novilo, on peut le pointer du doigt. Certes, il a fait des erreurs, mais tout n'est pas de sa faute.
Le problème avec Novilo, c'est qu'il est double quand même. D'une part, il met à mal une branche de la communication de l'Impact, dont on a loué l'amélioration depuis l'arrivée de Kevin Gilmore. Or, on voit que quand même, il y avait une petite partie de flûte, si je peux me permettre. Parce que quand Arino Vilo est arrivé, on nous a dit, c'est un joueur qui avait beaucoup de talent, qui a été formé à Lyon, mais, il a fait des mauvais choix de carrière, il a eu des mauvais comportements, et il n'a pas la carrière qu'il mérite jusqu'à présent, sauf que, vous allez voir ce que vous allez voir, il a changé. Et tout le monde a dit, il a changé. Rémi Garde a dit, il a changé. Arino Vilo a dit, il a changé. Tout le monde a dit qu'il avait changé, qu'il était plus le même, etc. Le premier match où on a vraiment besoin de lui, évidemment, son manque de discipline dont on a tant parlé avant son arrivée à Montréal, qui était la cause de tous ces déboires, explose au grand jour. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le tout communication de l'Impact de Montréal est en train de lui exploser à la figure avec des anecdotes de ce type. Le deuxième point, c'est que c'est assez révélateur d'un manque de discipline qui s'est vérifié aussi sur le terrain. Et puisque, bon, évidemment, on va en parler, mais je pense que le manque de discipline a évidemment sauté aux yeux samedi, mais qui se retrouve également en dehors du terrain. Et c'est pas la première fois, loin de là, qu'on parle d'un manque de discipline à l'Impact de Montréal. Il suffit de se souvenir de la sortie de Blérim Dzemaili avant son départ vers Bologne, donc la fin de son aventure avec l'Impact, où il disait déjà qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond dans ce club. Sans doute, le club fait des améliorations et c'est en train de s'estomper. Donc il faut pas non plus tout mettre dans le noir. Simplement, le manque de discipline est toujours là et je trouve que ce genre de choses illustre parfaitement cet état.
Comment est-ce possible qu'un joueur professionnel, et encore plus dans un contexte comme celui de la MLS, et encore plus dans un contexte où ton équipe basée au Canada doit se rendre 6 fois aux États-Unis pour commencer la saison, comment est-ce possible d'égarer son passeport? Je veux dire, la prochaine étape, c'est quoi? C'est égarer son enfant dans le métro? C'est juste pas possible, quoi. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais qu'on m'explique. Puis j'aimerais aussi peut-être entendre le principal intéressé s'exprimer plus publiquement sur l'incident en question, peut-être à tout le moins fournir des excuses aux supporters ou je sais pas, quelque chose. Mais
là où je te rejoins, Mathias, c'est que ça serait quand même malhonnête que de mettre sur le dos de Novilo la déroute de samedi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, que c'est un élément supplémentaire au grand sketch qu'on a vécu. Parce qu'on a vécu un grand sketch. Après, ça arrive aussi à tout le monde de se rater. Et puis la semaine prochaine, il faudra faire mieux. Puis ça peut aller. L'Impact peut reprendre sa marche. Il faut pas non plus crier sur les grands cris, etc. Hein, je veux dire, c'est une bonne claque. Des fois, ça réveille un peu tout le monde. Mais c'est ça. Ça serait vraiment malhonnête vis-à-vis de Novilo et un petit peu masquer les erreurs du staff et des joueurs qui étaient là que de tout mettre sur le dos de Novilo.
Et espérons, tu parlais de se reprendre rapidement pour l'équipe, espérons aussi pour Novilo qui se reprenne et qu'à la fin de la saison, tout le monde rigole de cette aventure, de cette mésaventure, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'il a donné cette passe décisive dont 5 buts qui font la différence entre un match nul et une victoire. Par exemple.
Absolument, mais bon, une saison est longue.
Samedi dernier, comme on l'a dit, il y a eu un match, il y a eu des buts, et on va peut-être les regarder d'un petit peu plus près, ces buts, afin d'essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Je pense que c'est intéressant quand même de le voir. Donc je vais les détailler un par un, sans faire trop long évidemment, mais juste pour comprendre, parce que ça va quand même donner une vue d'ensemble. Sur le premier, il y a une relance catastrophique de Bouche. Camacho tente de boucher un angle, il en indique un autre où personne ne va, pied de court pour revenir, et tous les autres joueurs, ils regardent. Le deuxième but, c'est un ballon perdu haut, Guerso est tout seul, Cabrera est sur Nemeth où il y a déjà Camacho, Camerera, il tente d'aller sur Guerso, qui aurait peut-être dû un peu mieux surveiller, il se prend un vent, et Nemeth, lui, il réagit mieux qu'Camacho, sur une passe de Guerso qui était loin d'être parfaite. Donc là, à ce moment-là, c'était un duel au meilleur temps de réaction, et victoire à Nemeth. Sur le troisième but, pour une rare fois, parce que vous voyez, vous allez voir encore, c'est souvent des pertes de balles de l'Impact qui ont mené au but. Là, Kansas City était en possession. La défense était théoriquement en place, mais elle était tellement trop haut qu'elle s'est fait prendre dans le dos. Sur le quatrième, Shaw met dans le rond central, il pousse son ballon trop loin. Les joueurs de Kansas City savent exactement qui est où. Regardez, il n'y a que des passes en un temps ou des enchaînements en contrôle-passe. Ça permet d'isoler Russell contre Camacho en moins de 5 secondes. Et l'Écossais est un bon dribbleur. Il a le dessus sur son adversaire direct et file battre bouche. Cinquième but. Kansas City tente de construire une attaque. Sagna est face à son but et il fait une passe parfaite entre Cabrera et Camacho. L'Argentin abandonne Russell. À cause de ça, il pourrait se retrouver seul face à bouche, et pour tenter de l'éviter, Camacho abandonne Nemeth, et Russell donne le ballon à Nemeth. En plus, tout ça s'est passé pendant que l'équipe trottinait, ça m'a sidéré. On voyait les joueurs courir, entre guillemets, mais il me faisait penser à un joueur qui sort, là c'est 1-0 pour son équipe, puis l'arbitre lui dit, allez, cours un petit peu, parce que sinon tu vas avoir un carton jaune, et puis il fait semblant de courir, mais les joueurs de Kansas City, putain, ils couraient comme ça! Je devenais fou devant ma TV, je vous le dirai. Sur le sixième but. Ah, ça aussi, ça y a de quoi rendre fou. Cabrera peut facilement faire une passe en retrait à bouche et puis il décide de tenter de dribbler deux défenseurs plein axe à l'entrée de son rectangle. Il perd le ballon et c'est caisse hein, après. Et sur le septième, piète dans le rond central, il fait une passe droit dans les pieds d'Hillier. Ben oui, donc pourquoi pas. Et Hillier lance Nemeth en profondeur. Personne ne fait attention à lui et il file battre bouche. Voilà les sept buts. Pour ça, tantôt, je vous disais erreur. Là, vous voyez que c'est erreur par-dessus erreur. Pas tout le temps, quand même. Kansas City a aussi du mérite. Il y a pas, même quand il y a des erreurs, d'ailleurs. Mais quand même, c'est plus que donner le bâton pour se faire battre.
Bah, c'est carrément se frapper avec le bâton, je dirais. C'est, on le donne même plus. Là, on le garde et on se tape avec parce que là.
D'autant plus que là, tu l'as illustré un petit peu, Mathias. Mais moi, plutôt que de parler de l'Impact, je vais aussi te parler de Kansas City. Et on a vu la différence entre une équipe qui était en place, qui était rigoureuse et qui avait certains automatismes dont ne dispose pas l'Impact. Alors que l'Impact n'est pas d'automatisme, on peut le comprendre parce que, un, il y a quand même eu des changements à l'intersaison, puis deux, il y avait des absents dans des zones importantes, puisque de fait, la défense centrale était remaniée et que l'absence de Piatti a concordé avec un déplacement de Taillider qui s'est avéré malheureux, mais en tout cas, donc il y avait l'axe central du terrain qui était changé, ce qui pourrait expliquer le manque d'automatisme, mais par contre qui n'explique pas le manque de rigueur et on va dire le quadrillage du terrain où c'était particulièrement pertinent du côté de Kansas City. Pourtant, ça demande pas des joueurs d'une qualité supérieure d'avoir une rigueur dans la mise en place. Ça demande du travail, ça c'est sûr. Mais on peut avoir des joueurs moyens et avoir une équipe solide. Et depuis le début de la saison, je vous le dis, je pense que ce qui va sauver l'Impact, c'est sa discipline et sa solidarité, parce qu'il dispose pas d'un collectif suffisamment huilé pour aller faire des matchs à la Kansas justement ou à la Portland par exemple. Il suffit encore d'aller voir le but que Portland marque contre le Galaxy ce week-end. C'est huilé, c'est un jeu de passe invraisemblable. Alors même si Portland a perdu, mais je veux dire, ce but-là est révélateur d'une équipe qui a travaillé ses mouvements. L'Impact n'a pas encore eu suffisamment le temps parce que il y a eu des changements, parce que il a fallu réajuster l'effectif, etc., etc. Mais la solidarité, c'est pas du travail, c'est avant tout un état d'esprit. Et manifestement, c'est ce qui a beaucoup péché et ce qui aurait pu, du moins, compenser un petit peu le déséquilibre créé par l'absence de Piatti et de Diallo, je viens de parler.
Ah, tu parles de discipline et de mise en place. Le plus sidérant là-dedans, c'est que quasiment tous les buts sont marqués quand l'équipe n'est pas en place. Pas parce que au départ ils font n'importe quoi, mais un petit peu aussi, mais aussi parce qu'ils partent à l'attaque. Et puis Rémi Garde l'a d'ailleurs bien dit dans son interview à la mi-temps, ils sont beaucoup trop hauts, ils pressent beaucoup trop. comme s'ils étaient chez eux, qu'ils voulaient pousser contre une équipe plus faible pour aller les inquiéter, alors que c'est pas du tout le cas, et qu'ils sont pressés. Il y avait un empressement de monter, je sais pas pourquoi, d'essayer de limiter New York, ou alors ce que Philadelphie a fait très très maladroitement justement contre l'Impact lors du match amical entre les deux équipes. C'était totalement incompréhensible, et évidemment ça a mené en plus à des erreurs, parce que il y avait aucune patience, il y avait aucun calme, il y avait aucun bon bah on a le ballon, contrôle, on regarde qui est libre, on y va, on fait circuler, puis on va construire, on est capable de le faire. On dirait qu'ils ont oublié qu'ils étaient capables de le faire. Le milieu de terrain s'est fait je vais pas employer de gros mots là, mais franchement il s'est fait laver comme pas possible. Devant Urruti, parce qu'il n'y avait pas de point d'appui non plus devant. À un moment donné, je me souviens d'une action où Urruti récupère le ballon, il recule, il se retrouve avec une passe à faire, et puis devant lui il y avait Azira et Chaume, je pense. C'était les joueurs les plus hauts. Forcément, il n'y a pas de solution devant. En perte de balle, le milieu se fait manger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis en plus, ça illustre un petit peu avec ce triangle milieu de terrain, la discussion qu'on a eue la semaine dernière, si Taider n'est pas là, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, 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 quoi.
Absolument. Puis tu pointes du doigt sans doute aussi la faute de garde sur ce match, parce que outre le coaching, on va sans doute parler des changements ou pas, mais en tout cas les changements ont posé problème, mais même la mise en place de départ a posé problème, puisque tu joues une équipe qui est en forme, qui est en Ligue des Champions de la CONCACAF, qui est une équipe redoutable, on le sait, il suffit de connaître un peu la MLS pour savoir que cette année, Kansas, c'est quand même une équipe sérieuse, ça l'était déjà l'année dernière, donc tu as un adversaire redoutable, tu as deux absents importants, tu sais que normalement ils vont faire le jeu et que tu vas souffrir, et tu gardes exactement le même schéma tactique, tout en mettant des pansements de façon un peu approximative, en mettant Chaume à la place de Taider et Taider à la place de Piatti, et en mettant Camacho et Cabrera qui ont jamais joué ensemble. Alors c'est vrai que très peu, c'est vrai que ça pour la défense centrale encore passe encore. On peut comprendre qu'il est fait comme il est pu. Par contre, c'est ça, est-ce que c'était vraiment un match pour Urruti, celui-ci, sachant que Urruti n'est pas un buteur et qu'on le sait bien, que c'est bien Piatti qui marque quand Urruti joue, et puis que d'ailleurs Urruti est toujours à zéro but cette saison? Peut-être pas. Est-ce qu'il fallait pas, pourquoi est-ce que les mecs sont allés presser trop haut? Tu leur dis, vous vous mettez à 10 derrière, puis tu laisses un mec devant. C'est ça souffrir, et c'est ça jouer une bonne équipe quand c'est toi l'équipe faible. On a l'impression que ils ont cru qu'ils étaient chez eux, puis qu'ils jouaient contre Orlando. Mais voilà, pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Faire rentrer Jackson à une minute de la fin, évidemment, ça, on pouvait encore en parler parce que il y a de quoi dire. Mais est-ce que ça, c'était pas plus un match pour Jackson que pour Urruti? Moi, peut-être, étant donné les absences, etc., il vaut mieux tout changer que d'essayer de mal colmater.
Ouais, pour moi, celui qui a le plus illustré le problème là, de se lancer à l'attaque devant avec le ballon, puis de parvenir derrière, finalement, c'était Lovitz, qui a été, ma foi, très bon, balle au pied. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai regardé un petit peu ses statistiques tout à l'heure. Selon le site de la MLS, il a réalisé 5 passes clés, ce qui est largement par-dessus tout le reste de son équipe. Mais c'était la première fois aussi cette saison qu'on le voyait vraiment à l'aise sur le flanc, et puis vraiment entreprenant et motivé. Par contre, quand il fallait revenir derrière, là c'était « Ah ouais, on met les pantoufles et puis on se traîne les pieds ». Donc il y a vraiment vraiment eu un gros gros problème de mentalité, je dirais, dans ce groupe-là. Et puis c'est pas sans rappeler certains matchs en 2018 d'ailleurs, parce que quand ça allait mal sur le terrain en 2018, il y avait personne pour venir secouer un petit peu les coéquipiers, puis leur dire oh, on se réveille, taper dans les mains, puis crier un coup. Et encore une fois cette année, personne le fait. Puis ça, c'est un gros gros problème pour moi, que ça soit celui qui porte le brassard de capitaine ou un autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lève le ton et puis qui dise aux autres ça marche pas ça. Parce que c'est bien là, de s'ouvrir la bouche à la mi-temps là, devant le micro de la télé, puis après le match, et puis tout ça, puis dire ouais non, c'est pas acceptable, mais il faut le dire sur le terrain aussi. Puis c'est quelque chose qu'on voit très 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 rarement, voire jamais même avec l'Impact dans sa version actuelle.
C'est clair, c'est important ce que tu dis là, parce que on dit souvent que le capitaine est le relais de l'entraîneur sur le terrain. Rémi Garde a fait un constat à la mi-temps. On a regardé les buts en détail et on voyait que le constat était juste. Sauf que sur le terrain, il n'y avait pas de relais de l'entraîneur pour faire passer ce message-là pendant que ça jouait, pour le faire passer clairement à tout le monde. Donc Rémi Garde, qui a fait son mea culpa aussi après le match, qui a dit bah, « j'ai passé un message, je pense que je dois me regarder dans le miroir aussi parce qu'il est peut-être mal passé, il faut que je regarde ce que j'ai mal fait ». D'accord, mais il faudrait qu'au moins il soit sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait compris et qui puisse le faire passer aux autres joueurs quand ça se passe pas comme il faut pendant le match, que lui puisse aussi se concentrer sur d'autres choses. Et c'est vrai que ce relais de l'entraîneur sur le terrain, on ne le sent pas. Souvent, c'est pas nécessaire parce que les joueurs sont appliqués, ils appliquent ce qu'il faut faire et les consignes sont bien comprises et ça se passe bien. Mais dans les moments difficiles, comme samedi, ben ça précipite l'équipe qui a du mal à surnager, ça la précipite vers la noyade.
Ah, effectivement, mais en même temps, ce matin, justement, c'est Taider qui a abordé le sujet en entrevue. Il disait, juste avant qu'on prenne les deux buts avant la mi-temps, l'entraîneur a demandé qu'on arrête de presser trop haut, et puis le message a pas été compris par tout le monde, et puis on s'est pris deux buts. Donc ça indique que oui, il y a un gros problème au niveau du relais de l'information et des directives sur le terrain.
On a parlé des buts en détail. J'ai un peu parlé en les décrivant de ce que Camacho et Cabrera avaient fait. J'ai pas parlé beaucoup du gardien de but, Evan Bush. Bon, évidemment, même avec un super gardien, je pense que l'impact aurait perdu et ça aurait été très 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 compliqué. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux, toi, Eric, qui connais bien les gardiens? Est-ce que finalement il était impuissant sur les 7 buts, il a été laissé à l'abandon par le reste de son équipe?
On va pas se le cacher non plus, c'était pas la journée de rêve pour notre ami Evan, qui était abandonné plus souvent qu'à son tour. Je veux dire, c'est vraiment pas le genre de match dont un gardien sort le sourire aux lèvres, on s'entend. Il y a certaines situations où il peut vraiment, on va pas dire qu'il peut pas faire grand chose, mais bon, dans certaines situations, pour un gardien, je pense que l'important, c'est de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour soit tenter ou réaliser un arrêt, soit influencer le jeu de manière positive. Il reste ce 10%. Et ce 10%, c'est toi, et entièrement toi, qui dois aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut que tu prennes les bonnes décisions, il faut que tu fasses les bons déplacements au bon moment. C'est très très difficile, on s'entend. Et le problème avec Evan Bush, c'est qu'il ne les fait pas.
Dès la première minute au but refusé, puisqu'il y a eu un but refusé pour Kansas au tout début du match, l'hésitation de Bush est flagrante. Et ça a auguré du match. Là où peut-être je pourrais dire que Bush a failli, c'est dans son rôle de cadre, puisque on l'a dit, ça manque de relais sur le terrain et Bush doit être un cadre et il est considéré comme tel de par son ancienneté, de par son contrat, de par son statut.
Et puis en plus de par les instructions de Garde de pas presser trop haut, c'était lui qui était le mieux placé pour le voir et remettre tout le monde à sa place.
Absolument, absolument. Donc il a failli dans son rôle de cadre. Après sur le un cadre, ça donne aussi des directives et des consignes aux autres. Et en l'occurrence, les autres, bah devant lui, c'était Camacho, Cabrera, Sagna et Lovitz, dont je rejoins aussi ton point de vue sur Lovitz, Eric. Je trouve que défensivement, il a pas été bon du tout, et ça m'a inquiété de le voir comme ça. J'ai vu que sur Twitter, où je ne vais pas souvent, mais là quand même, j'ai regardé pour voir un petit peu les réactions. Certains semblaient dire qu'il avait fait un match correct défensivement. Moi, je trouve que ça a été une catastrophe. Mais donc c'est ça, un cadre donne des consignes à des soldats, et là les soldats étaient absolument bons à rien. Donc ça nuance un petit peu sur ce match-là. Ça nuance évidemment un petit peu l'influence possible de Bush.
Ouais, non, c'est clair que bon, le match de Bush, je pense qu'il est largement moins pire que celui de Cabrera. Par sa relance sur le premier but, tu compares ça à Cabrera qui oublie son homme, qui on sait pas où il est, qui se fait prendre dans le vent, je sais pas combien de fois, parce qu'il y a pas que sur les buts, il a été sauvé quelques fois, que ce soit par Camacho ou par Bush d'ailleurs. Bush au moins il a pas essayé de dribbler deux défenseurs devant son but quoi. À un moment donné.
Camacho est un peu lourd aussi, hein. Il aurait pu se déplacer, offrir une solution à Cabrera dans son délire. même si Cabrera est 100% fautif, hein, mais Camacho est un plot. Au moment où il voit Cabrera partir tout seul, tête baissée, de façon latérale, Laurent Simon fonce tête baissée vers le but et Cabrera fonce tête baissée vers la ligne de touche. Mais c'est un tonneau Camacho sur ce. Regardez les images. C'est...
Oui, mais en même temps, c'est comme quand tu vois un ovni. Tu sais, t'as toujours une petite période où t'es pas trop sûr de ce qui se passe. Donc tu chiales un peu, quoi.
En tout cas, c'est inquiétant en cas d'absence de Diallo. On ne sait pas trop ce qui va arriver parce qu'on a vu que la paire Cabrera-Camacho ensemble, ça marchait pas. Est-ce que l'un des deux avec Raïtala aurait été moins pire? Puis, comme le disait très bien Olivier Brett, c'est pas son bulletin, mais en tout cas, c'est son article d'après-match sur le site de RDS. Cabrera peut faire des choses extraordinaires, mais tu sais que pour un bon match, il va t'offrir une mi-temps exécrable. Et là, c'était 90 minutes. Donc, il y a un problème de fiabilité. C'est extrêmement embêtant parce que tu sais pas lequel tu vas avoir sur le terrain. Et ça, c'est pas nouveau. On l'a vu toutes les saisons où il a beaucoup joué. Donc, c'est quand même assez problématique. Camacho, honnêtement, je sais pas quoi penser. La semaine passée, on a dit qu'il méritait une chance. Je pense que, bon, clairement, il l'a pas saisi, mais il était pas non plus dans les meilleures circonstances.
Camacho, il devait bomber le torse, il devait prouver des choses, oui. Il devait prouver qu'il est venu pour être un cadre il y a un an. Il a perdu sa place après une saison difficile, mais t'as une deuxième chance, tu bombes le torse. Et si t'as peur de jouer à Kansas City, qu'est-ce que ça devait être quand il allait jouer à Sclessin, hein, vous qui êtes belges là, quand t'as 30 000 personnes qui t'insultent tout le match à Liège là, et que t'as peur d'aller jouer à Kansas City? Non mais à un moment, je veux dire, Camacho, il est censé avoir quand même du coffre, il est quand même censé apporter quelque chose. Alors il a raté sa saison l'an dernier, très bien, mais la pression, t'es censé connaître quand t'as joué en Europe et quand t'as joué dans des stades où c'était un petit peu chaud là. Donc la pression de gagner sa place et de essayer d'éjecter Diallo ou Cabrera, bah dans son cas plutôt Cabrera parce que je pense que Diallo semble quand même beaucoup plus serein quant à ses capacités. Normalement, c'est un match pour Camacho, un match qu'on annonce perdant pour l'Impact, quoi qu'il arrive, puisque on sait que l'Impact, normalement, sur le papier, à Kansas City, ça va être difficile. Tu peux être le sauveur, t'es censé être le gars qui va tenir l'équipe, t'as des choses à montrer. Et à peine 30 secondes de jeu, il était déjà liquéfié. Et il était liquéfié. C'est pas normal. Donc, Chaume, je peux comprendre qu'il soit pas dans les meilleures dispositions parce que Chaume, c'est sa première titularisation à MLS. Il sort de nulle part. Même à Montréal, il y a plein de gens qui savent pas qui est Chaume. Voilà. Donc, c'est un petit jeune. Mais Camacho, c'est pas un petit jeune. Je suis désolé. Camacho, il est pas venu pour ça.
Ce que j'allais dire sur Chaume aussi, avant de te laisser la parole, Eric, je vois que tu veux intervenir. C'est que Chaume, l'année passée, faut pas oublier, tout le monde dit, oh, mais Chaume, franchement, c'est pas terrible. L'année passée, c'était une position différente, certes, mais quand Samuel Piette s'était blessé lors d'un match à Montréal, Chaume était monté au jeu très tôt dans la rencontre et s'était très bien débrouillé. Tout le monde disait, ah, Chaume, c'est pas mal du tout. Donc, c'est ça aussi, à passer à côté d'un match, quand tout le monde passe à côté, après, selon ta position, soit, tu passes à travers comme Chaume, soit, t'es noyé au milieu de tout le monde. On pourrait aussi parler de Bakary Sagna, qui a quand même eu des expériences assez incroyables à haut niveau, qui n'a pas non plus été le chef sur le terrain et fait partager cette expérience-là non plus. Donc, c'est un naufrage collectif et il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, malheureusement. À part peut-être, je vais quand même le citer avant de l'oublier, je trouve que Okonkwo, pour un type qui est arrivé très tard du Nigeria et qui était pas sûr de jouer à cause de ça, il a essayé un peu plus que d'autres. On va dire ça comme ça. Mais bon, Eric, que voulais-tu dire?
Je suis tout à fait d'accord que Camacho aurait dû saisir l'occasion pour essayer de d'écarquiller un peu les yeux de son entraîneur et tout, mais en même temps, le pauvre, quoi. Hein? Je veux dire, à sa droite, il y a les cabrioles de notre ami Cabrera. À gauche, il y a un fantôme. On l'a dit, Lovitz c'était absolument pas là défensivement. Devant lui, il y a Chaume. Chaume, c'est un jeune. Il faut quand même lui donner des directives un petit peu. On le voit sur le premier but. Camacho lui pointe de venir derrière lui pour couvrir l'axe. le mec le regarde même pas et fonce tête baissée vers le gars qui a le ballon. Ça débalance tout derrière. Camacho se retrouve dans un no man's land. Je veux dire, Camacho, oui, d'accord. Il aurait pu faire mieux, tout à fait d'accord. Mais en même temps, c'était le cirque autour de lui, quoi. Après, quand t'as pas le contrôle de rien, c'est difficile de d'imposer sa marque, quoi.
Ouais, puis on peut rajouter Samuel Piet aussi, qui, bon, je disais que le milieu était liquéfié. Samuel Piet en faisait partie de ce milieu qui s'est complètement fait piétiner. D'ailleurs, c'est le mot que lui-même a utilisé après le match, parce que bah il y avait rien qui était en place. Alors à ce moment-là, bah t'as beau courir partout et vouloir, mais bon, si tu fais une passe directement dans le pied de l'adversaire qui mène à un but, ça n'aide pas non plus. Disons que c'était aussi un de ses plus mauvais jours. Enfin, je pense qu'on a plus ou moins passé l'équipe en revue. On n'a pas parlé de Tyder qui a marqué, mais c'est à peu près tout. Je le disais à la blague en privé à certaines personnes, mais je pense qu'on va inventer un nouveau mot, c'est l'outilité. Ça servira absolument à tout, sauf à quoi ce à quoi t'es censé servir. Parce que... Bon, en tout cas, il y a toute une série de problèmes. Maintenant, on va reparler de l'impact quelques minutes plus tard dans l'émission. De toute façon, ça va plus durer longtemps parce qu'on a déjà dépassé, c'est une certitude. Deux points positifs. L'impact a encore marqué à chaque match. Allons-y. Et l'impact n'a toujours pas encaissé de but sur coup de pied arrêté. Et oui, c'est assez fou. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à ça aussi, par rapport au but encaissé, parce que souvent en débat, on utilise des termes techniques dans l'émission, et souvent on parle de reconversion rapide, et c'est généralement utilisé comme un synonyme de contre-attaque, mais ça n'en est pas. Et là, ce match-là est idéal pour faire la distinction entre une contre-attaque et une reconversion rapide, parce que pour avoir une contre-attaque, il faut contrer une attaque. Et l'Impact n'a pas attaqué. Pourtant, ils sont pris plein de buts en reconversion rapide. Ça avait l'air de contre-attaque, mais ce n'était pas des contre-attaques. C'est des, ben, le but, je sais plus lequel c'est, là, où je vous disais que Chaume perdait le ballon au milieu du terrain et ce genre de choses-là. Bah ben, oui, tu perds le ballon. Ton équipe est en phase offensive, donc les joueurs ont la tête à l'attaque, même s'ils n'attaquent pas, mais ils sont, t'es en possession, tu perds le ballon, et au moment où la possession passe d'une équipe à l'autre, bah, il y a une équipe qui se reconvertit du mode offensif au mode défensif, et inversement. Et quand une équipe se reconvertit beaucoup plus vite que l'autre, et qu'avant que l'autre soit reconverti, ça se passe tellement vite qu'il y a un but, c'est ce qu'on appelle une reconversion rapide. Voilà pour un petit peu la précision, l'explication. Et donc, des buts sur reconversion rapide, ben il y a quasiment eu que ça, ce qui est tout à fait anormal quand tu joues en déplacement à Kansas City. Et ce qui expliquait bien donc Rémi Garde à la mi-temps lors de son entrevue sur TVA Sport. On va changer de sujet, je sais que ça va toujours pas faire plaisir aux fans de l'Impact de Montréal, mais vendredi, il s'est passé quand même quelque chose d'assez fabuleux à Toronto, avec les débuts d'Alejandro Pozuelo. C'était, allez voir sur Twitter, j'en ai fait un tweet, je suis pas le seul, mais avec un résumé de son match, une panenka pour marquer un penalty, un but pour marquer le troisième but de Toronto où il arrive à l'entrée du rectangle. Je suis quasiment certain qui sait qui va se faire remplacer parce que son remplaçant est sur le bord de la touche depuis un petit moment. Et parce qu'il avait des passes à faire et il a essayé d'être personnel alors qu'il avait été très collectif pendant tout le match. Et il dit je vais tenter une petite pichenette, puis il l'envoie dans pleine lucarne face à un gardien qui n'est pas mauvais du tout. Enfin, Eric, tu me confirmeras peut-être après. Il dribble dans le rectangle en dansant pour offrir le premier but à Altidore. Il nous a fait quelques gris-gris aussi. Toujours des gestes techniques à la fois spectaculaires et utiles pendant le match pour faire avancer son équipe et le jeu. C'était assez spectaculaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs?
C'était un homme chez les U14, là, carrément, là. C'était indécent à quel point il était dominant, quoi. Tout ce qu'il faisait, en fait, c'était le contraire parfait de l'Impact, quoi. Tout ce qu'il faisait réussissait, mais absolument tout. C'était une grosse performance. Je sais pas s'il va être capable de rééditer ça chaque semaine, mais c'était spectaculaire, un truc à voir absolument.
Moi, je l'ai découvert par vous, puisque je suis de très loin le championnat de Belgique, je dois reconnaître, et vous m'en aviez parlé, vous m'aviez vendu ce garçon comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur offensif du championnat belge, et bah, manifestement, il n'y a pas eu besoin de longtemps pour confirmer tout son talent. C'est vrai que le but, la petite louche qui nous met pour le troisième but, sensationnel.
Du pied gauche en plus. Hein.
Et c'était vraiment, ouais, c'était beau à voir. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça en MLS, parce que je pense que c'est aussi en allant chercher des joueurs de ce type que la MLS va grandir. C'est pas seulement en allant chercher les vieilles gloires, mais en suivant finalement la politique d'aller chercher des joueurs à gros potentiel et à grande qualité, malgré un nom qui dépasse pas souvent les frontières internationales. Mais là, Pozzuolo, en effet, risque de faire plaisir à bien du monde.
D'autant que, quand tu dis faire plaisir à bien du monde, sur Twitter, je suis match à la TV, évidemment, mais je regardais un petit peu les commentaires sur Twitter et il y avait des choses qui, me surprenait beaucoup, me sidérait du côté. Il y avait beaucoup de gens, que ce soit des médias, des supporters qui suivent la MLS en général, ou qui disaient quand Pozzuolo a été acheté à Genk, oh là là, mais pourquoi ils sont fous Toronto, ils dépensent plein d'argent. Et puis pendant le match, on voyait de plus en plus de matchs, de messages dire oh ben oui, il les vaut largement, c'est bon, on a compris. Et d'autres messages qui m'ont encore plus surpris, c'est des supporters de l'Impact qui disaient tellement apprécié sa prestation, ils disent quand Toronto va passer à la télé, oui, je vais les regarder. Probablement qu'ils vont avoir envie que Toronto perde, mais ils vont quand même se régaler grâce à un joueur pareil, et évidemment, on ne demande pas mieux en MLS.
Absolument, tu l'as dit, c'est quand t'aimes le jeu, quand t'aimes le soccer, t'es heureux de voir, quelle que soit l'équipe que tu supportes, t'es heureux de voir des grands joueurs et des bons joueurs, des gens qui te régalent, quelle que soit l'équipe dans laquelle ils jouent. Donc, c'est bien, c'est bon signe, évidemment, ça veut dire que le cadre du supporterisme s'élargit, c'est-à-dire qu'on aime le jeu avant tout.
En face de Pozzuolo, il y avait peut-être un bon gardien, mais il y avait une défense qui tournait pas rond non plus, et il y a une équipe de New York City qui est censée jouer les premiers rôles, mais qui va plus bien du tout depuis le départ de Patrick Vieira. C'est pour le moment Dominic Torrent, l'entraîneur de New York City. Je sais pas pourquoi j'ai dit pour le moment.
Pour le moment.
c'est un lapsus. J'espère pour lui qu'il n'est pas révélateur. Mais oui, je pense que son siège commence à devenir éjectable. Et c'est d'ailleurs lui qui nous vaut la déclaration de la semaine, d'autant que c'est le prochain adversaire de l'Impact de Montréal. Et il a dit nous devons gagner le prochain match, sinon on sera dans le pétrin. Je pense que on, il y a beaucoup de jeu dans le on aussi, mais New York City, Montréal, deux équipes qui restent sur un match très 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 difficile. Mais quand on regarde le début de saison, c'est quand même New York City qui a beaucoup beaucoup plus de pression sur les épaules.
Ouais, je pense que ça va vraiment vraiment très mal de leur côté en ce moment. Donc. D'ailleurs, Atlanta aussi, hein, faut pas oublier. Je pense qu'ils sont, les deux sont dans la cave du classement du côté de l'Est. Donc, je pense que pour l'Impact, il faut absolument s'arranger pour les renfoncer encore un petit peu plus, parce que c'est clair que d'une manière ou d'une autre, ces deux équipes-là, que ce soit New York ou Atlanta, vont finir par remonter à un moment donné. C'est pas possible qu'ils restent là toute la saison. Donc,
on avait vu ça de Toronto l'année dernière, hein, puis finalement.
Mais il y a trop de talent quand même. Il y a trop de talent dans ces équipes-là pour rester si bas toute la saison. Moi, j'y crois pas. Ou à tout le moins, il y en a une qui va remonter. Donc, si l'Impact peut en profiter pour en caler une, c'est même si c'est avec un match nul, ça serait déjà quand même pas si mal. Je pense que c'est une occasion à saisir absolument, là. Et en plus, il faut absolument redresser la barre aussi, là, du côté de Ringard et de ses amis. Donc, ça serait, pour moi, c'est une grosse, grosse échéance. En tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Et c'est très important qu'il fasse un bon résultat, parce que derrière, il y a DC et il y a Columbus, au programme de l'Impact, où là, ça va quand même être une autre limonade. Je suis pas convaincu qu'à New York, il y ait la qualité suffisante, pour l'instant, pour vraiment remonter la pente de façon spectaculaire. On nous a vendu à l'arrivée de New York il y a pas si longtemps. C'est quoi New York City? 4 saisons, c'est ça à peu près? Le Galaxy de l'Est, c'est-à-dire le club de Manhattan, les vedettes. On ramène Villa, on ramène Lampard, on ramène Pirlo et Manchester City qui est dans le paysage. Et c'était un peu poussez-vous, c'est moi qui arrive quoi. Et depuis plus rien. Mais on n'est pas non plus sur un club qui, à la Kansas City par exemple, qui vise, disons, un esprit club et une tendance à se, comment dire, à former des joueurs ou du moins à avoir un collectif redoutable. J'ai du mal à lire la politique sportive de New York City et sur cette saison, sauf s'il y a des ajouts qui viennent, mais sinon je les vois pas trop remonter la pente en l'état actuel des choses.
Ah, moi je pense qu'il y a un gros problème d'entraîneur. Parce que bon, l'équipe était la même l'année dernière avec Vieira et avec Torren, puis on a vu le gros contraste entre les deux moitiés de saison. Donc il faut évidemment laisser à un entraîneur le temps de mettre les choses en place comme il le veut et de faire une préparation complète, ce qu'il a eu maintenant. Et là, ça commence tout aussi mal, donc il y a des choses à corriger. Alors on peut dire le départ de Villa, certes, mais comme tu le dis Quentin, à ce moment-là, il y avait moyen d'aller chercher quelqu'un pour le remplacer. C'est censé être Mitrita. Mais bon, Mitrita, je suis sûr que c'est un joueur de qualité qui va nous montrer de belles choses à l'avenir, mais c'est clairement pas un Pozzuolo et c'est clairement pas non plus un grand nom qui a quelque chose d'extraordinaire et qui a un vécu à la Wayne Rooney aussi. Et c'est clair qu'il manque cette étincelle dans cette équipe de New York City qui fait qu'elle a plus, comme c'était le cas l'année dernière il y a 2 ans, elle a plus, selon moi, les armes pour jouer le haut du classement. Quand on faisait les pronostics d'avant-saison, je me souviens l'année passée, il y a 2 ans, on disait, bon, il y a des équipes, on est quasiment certain qu'elles vont finir dans les premiers, on sait pas exactement où, mais on se qualifiait assez facilement avant tout de suite la ligne rouge et il n'y a pas de problème. New York City en faisait partie. Cette année, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que l'équipe est meilleure que ce qu'elle montre jusqu'à présent, mais il faudrait qu'elle commence un petit peu à s'organiser et qu'elle sache où elle va, parce que sa politique sportive en dehors du terrain se reflète pour le moment sur le terrain. Ça va nulle part.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, quand je dis qu'autant New York qu'Atlanta vont remonter, je les vois pas remonter jusqu'en première position non plus. Hein. Je les vois remonter juste par-dessus la ligne rouge. Et puis c'est là que ça va devenir compliqué pour l'Impact, parce que si ces deux-là remontent par-dessus la ligne rouge, ben ça fait 2 places de moins. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de gagner des points contre ces équipes-là, justement, parce que elles ont des difficultés en ce moment, ce qui fait qu'à la fin de la saison, ça risque d'être les équipes contre lesquelles l'Impact va être nez à nez, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut leur voler des points.
Ouais, et puis en plus New York City est dans le doute, donc autant prolonger le doute chez eux, je pense que et éviter qu'ils se créent aussi du côté de l'Impact. Je pense que c'est très important parce que le 7-1, on en a parler énormément tout au long de cette émission. Je pense que ça va être un des sujets de toute façon dans beaucoup de médias cette semaine et c'est un sujet de discussion de beaucoup de supporters. C'est clair qu'on voit les résultats, on fait aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qui va pas à l'Impact, mais n'oublions pas que justement il y a eu un certain 7-1 dans un derby de New York, puis finalement les deux équipes de New York n'étaient pas si éloignées en qualité les unes que les autres. C'était un 7-1 du temps justement de Patrick Vieira, si je me trompe pas. Donc c'est un résultat en soi qui est lamentable. Oui, faut dire les choses comme elles sont. Il faut corriger ce qui a pas été le plus rapidement possible, mais ça veut pas dire que l'Impact est nul, très très loin de là. Et évidemment, il faut démontrer ses qualités le plus rapidement possible. Et il faudra aussi quand même trouver des solutions en cas d'absence de joueurs importants, parce que on a vu ce qui se passait sans Piatti, on a vu ce qui se passait sans Tyler dans l'entrejeu, on a vu ce qui se passait sans Diallo derrière.
Et sans passeport.
Et sans passeport. Et peut-être sans point d'appui à l'attaque aussi. Allez, tout était réuni à Kansas City pour que les problèmes soient là, mais ça pourrait, faut quand même le reconnaître, ça pourrait quand même être pire. Il faut être prêt, parce que pour les situations intermédiaires, il faudra que ça penche du bon côté pour l'Impact de Montréal, et il faut qu'il le montre le plus rapidement possible. Ça concluait notre dernier segment de l'émission, qui est commencé par une déclaration de la semaine. Si vous aussi, vous avez une déclaration qui vous titille et dont vous voulez qu'on débatte dans l'émission, n'hésitez évidemment pas à nous l'envoyer sur Twitter, envoyez-la moi à Koufran MLS ou utilisez le mot-clé Koufran en un seul mot. Vous pouvez évidemment nous envoyer vos questions aussi, on se fera un plaisir d'y répondre et d'en débattre. Vous pouvez retrouver cette émission Coup Franc sur Vioparc, qui a la gentillesse de nous héberger, sur ImpactSoccer.com, sur vos diffuseurs habituels. Et cette semaine, donc, ne manquez pas le nouveau numéro de Québec Soccer. C'était l'émission Coup Franc de la semaine du 1er avril. On n'a pas tenté de noyer le poisson après la défaite de l'Impact à Kansas City, que ce soit sur les points négatifs, tout en évitant la dramatisation. J'espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à vos interrogations et que vous êtes heureux de l'avoir écouté, que vous sentez que vous sentez mieux après une bonne heure finalement d'écoute cette semaine probablement plutôt qu'une demi-heure. Et je vous fixe avec mes compères Eric Chenois et Quentin Parisis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coup Franc.